Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8. Et je suis en compagnie de Pierre. Bonjour Pierre.
Salut Thomas. Consacré, donc si j'ai bien compris ce qu'on fait aujourd'hui en partenariat avec Animafac, à différentes associations actives sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Et pour commencer, nous recevons deux personnes d'engagés et déterminés, Enzo et Lucas. Bonjour.
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 Bonjour à vous deux.
Bienvenue.
Bienvenue sur les ondes de Radio Campus Grenoble.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on aimerait savoir, déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous détailler ce que vous faites au sein de ce groupe engagé et déterminé?
Engagé et déterminé, c'est un réseau national déjà d'associations étudiantes engagées pour la solidarité internationale et pour l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et donc on est présent dans à peu près toutes les régions de France via des référents réseau, dont Enzo parlera mieux que moi puisqu'il en est un à Lyon. Et on a une équipe salariée sur Paris qui travaille à l'année sur plusieurs projets. Et on anime aussi des formations et on accompagne les assos dans leurs projets de solidarité internationale.
Et quand on parle de solidarité internationale, c'est sur des questions de quel type au niveau social pour venir en aide à des personnes en situation de pauvreté ou sur des terrains en difficulté à l'étranger, ces questions-là se posent dans quel contexte en fait?
Eh bien, la solidarité internationale, ça peut très bien être des projets qui se passent à l'étranger. Donc dans ce cas, c'est des associations étudiantes ou jeunes qui viennent se déplacer dans un autre pays pour répondre à un besoin. Donc apporter par exemple, je sais pas, un soutien en termes de matériel, un soutien pour de l'aide à la création de, je sais pas, d'espaces dédié à la parole des femmes ou peu importe, tout type de projet qui peut se passer à l'étranger, mais aussi donc des projets au local en France, donc sur différentes thématiques qui sont abordées donc dans le CSI, l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale.
Toi qui es à Lyon, quelles sont tes missions?
Moi du coup je vais accompagner un réseau d'associations de solidarité internationale à réaliser leurs projets sur cette année. EED au national propose des formations pour aider ces associations à se professionnaliser, à mettre en place leurs projets, à se financer, etc. Et du coup, moi, je vais animer des événements autour de différentes thématiques pour inviter ces associations à se questionner sur leurs projets pour avoir le meilleur impact sur les populations. Et donc, par exemple, on a fait un événement autour des dérives du volontourisme. AED sur Lyon, du coup on a abordé toutes les notions de ce qui n'allait pas dans cette nouvelle pratique qu'est le volontourisme et pour essayer un peu de questionner les gens et voir ce qu'ils en pensent et ce qui en est ressorti de ces débats.
Et est-ce que, je sais pas, parce que moi ça me... Enfin, j'imagine à partir de quoi le terme est formé, mais ça recouvre quoi le volontourisme? C'est quoi la...
Ah.
Ça désigne quoi?
Le volontourisme, c'est le fait de payer en quelque sorte pour partir dans un pays étranger tout en s'impliquant dans une cause, que ce soit humanitaire ou de solidarité. Sauf qu'il y a pas mal de dérives sur le fait que ces projets sont parfois montés de A à Z pour accueillir justement ces jeunes Européens dans des pays et ça dénature totalement la vraie définition de la solidarité. Parce que y a des faux orphelinats qui sont créés avec de faux orphelins, simplement pour accueillir les jeunes Européens.
Mais du coup, même en allant contre les intérêts réels des populations locales, plutôt que de prendre en compte leurs réels besoins, quoi.
Exactement.
Tout à fait. Ça.
Lucas, tu es sur l'antenne de Grenoble, du coup?
Non, moi je fais partie de l'équipe salariée qui est à Paris, du coup. Je suis en charge de tout ce qui va être outils pédagogiques, outils de sensibilisation et de CSI. Avec le reste de l'équipe et du coup je travaille sur l'actualisation de nos contenus de formation et je suis aussi en appui sur l'animation du réseau donc ça m'arrive aussi de me déplacer en région pour animer 2-3 temps comme celui duquel Enzo vient de parler.
D'accord, donc chercher à faire aussi de la cohésion du coup au sein du groupe, du collectif.
Ouais, aussi. Oui c'est ça, enfin, on est en appui en fait, l'équipe salariée se déplace régulièrement dans les régions pour aller appuyer les volontaires en service civil dans les animations qu'on propose. Et puis aussi pour venir sur les temps de nos partenaires dont Animafac fait partie, donc c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Et que du coup aussi il y ait plus une espèce de mise en harmonisation de vos pratiques au niveau national dans l'association, quoi, qu'il y ait une espèce de cohérence qui se retrouve d'une région à l'autre dans les valeurs que vous portez et les actions que vous menez.
Ouais, tout à fait, puis c'est aussi pour créer des moments d'échange et de rencontres entre les assos du réseau. Que ce soit en région et à l'échelle nationale. On a organisé il y a une semaine le WID, donc le week-end engagé et déterminé, avec 3 E, qui a permis à toutes les assos du réseau de se rencontrer et d'échanger à travers divers ateliers sur le CSI et sur leurs pratiques de solidarité internationale, de questionner leur motivation et leur démarche. Et ça, c'est une idée qui est au cœur de ED, c'est qu'on va promouvoir le partenariat et le travail en réseau à toutes les échelles. Du coup, c'est aussi un gros travail du réseau d'animer une espèce de communauté d'associations pour qu'elles puissent travailler ensemble et réfléchir ensemble pour améliorer la solidarité internationale.
Est-ce que vous êtes aussi en lien avec d'autres pays? Comme vous êtes au niveau international, vous avez des partenaires peut-être au niveau européen, peut-être?
On a des partenaires sur plusieurs projets internationaux, ce qui vont le plus être des projets d'échange et de réflexion. Sur par exemple le numérique, c'est le cas du projet qu'on mène actuellement avec un partenaire en Tunisie, un partenaire au Maroc, un partenaire en Belgique, un partenaire en Macédoine du Nord. Enfin, le partenaire au Maroc n'est pas impliqué sur Connexion, mais on a un partenaire au Maroc, on a aussi un partenaire en Guinée, et j'ai certainement oublié un pays, honte à moi. Et puis on a 2 volontaires en service civique aussi avec nous à Paris au quotidien,
de réciprocité
qui sont engagés donc chez notre partenaire tunisien et qui est le Tunisian Forum for Youth Empowerment, et chez notre partenaire guinéen qui est le Relais Guinée, et qui viennent du coup passer l'année avec nous à Paris pour travailler avec l'équipe en fait.
Comment vous pourriez définir les missions de Connexion?
Connexion. Alors, on n'est pas vraiment calé sur le sujet parce que c'est pas nous qui portons le projet, mais en fait, c'est un.
Brièvement alors.
C'est un projet du coup avec 5 pays impliqués, et c'est des groupes de jeunes qui se sont réunis, là sur l'année en cours, qui vont se réunir 4 fois, une fois dans chaque pays. Donc, il y a 4 pays impliqués, qui vont réfléchir ensemble sur les enjeux du numérique en les liant à d'autres enjeux, c'est-à-dire numérique et féminisme, numérique et environnement par exemple. Et l'idée derrière, c'est que les 4 groupes de jeunes des 4 pays co-construisent ensemble un outil pédagogique qui puisse être utilisé dans les 4 pays pour aller sensibiliser les gens sur ces enjeux-là.
Donc que l'association, les jeunes qui en font partie, rayonnent aussi sur les populations environnantes. C'est quoi vos projets là pour la suite sur l'année 2023, vous avez des objectifs à venir, des objectifs sur lesquels vous voudriez mobiliser de nouveaux bénévoles? Peut-être qu'il y a un appel à faire, je ne sais pas s'il y avait des gens qui souhaitaient rejoindre l'association.
Alors, c'est pas, vu qu'on est un réseau d'associations, ce n'est pas possible de rejoindre l'association en tant qu'individu, c'est les associations qui adhèrent. Pour répondre à l'autre partie de la question, je termine sur celle-là avant. On est ouvert à toute association qui est engagée sur ces questions-là, donc soit de solidarité internationale, soit qui va être ECSI, donc éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, qui se reconnaît dans les valeurs de ED. Et puis pour la suite de l'année, du coup, on a encore plusieurs formations prévues, dont une formation à l'ECSI, une formation à l'éducation populaire, et puis en juin, des formations au départ qui vont viser à préparer les participants et les participantes à la rencontre interculturelle, et puis à bien... réfléchir sur leur motivation et leur démarche avant de partir pour leur projet l'été prochain. Et puis on a aussi notre festival des associations début juin et l'assemblée générale de ED qui sera le lendemain, qui vise à être un espace où les associations peuvent elles-mêmes animer des ateliers et puis mettre en valeur leurs projets pour créer un temps de rencontre et d'échange en fait là-dessus.
J'aimerais ajouter également que... excuse-moi. Qu'Engagé Déterminé propose par région des thématiques à aborder au travers d'événements que les référents du coup en service civique avec leur chargé de mission vont porter. Donc par exemple pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous on met en place des événements autour de la décolonialité. On aborde aussi des thèmes comme l'écologie décoloniale. On va animer une animation demain matin à l'occasion du Focus pour AnimaFac. Donc c'est des thèmes qu'on se dit pas forcément expert dedans, mais c'est des notions qu'on aimerait aborder et qui vont être abordées dans les années à venir. Et donc au travers de ces événements, on aimerait promouvoir certaines valeurs et appeler les associations à se questionner sur leurs projets, et notamment sur ces thématiques. Donc voilà, introduire aussi la notion de décolonialité dans nos sociétés et en parler tout simplement.
Comment vous le construisez, c'est comment aborder ces thèmes-là avec les associations justement?
Au travers d'ateliers pédagogiques, donc on fait pas mal d'éducation populaire pour essayer de co-construire avec les associations des outils pédagogiques ou simplement construire des définitions pour essayer simplement qu'elles se questionnent elles-mêmes, par elles-mêmes, sur ces questions. Mais bien sûr que nous, d'un autre côté, en amont, on prépare un peu le sujet, on se renseigne sur les sujets, on lit des articles, des livres, tout ça. Mais notre but, ça va vraiment être de créer, d'animer des ateliers. Donc, notamment, l'alternance de Lucas, c'est clairement axé sur la création d'outils pédagogiques. Donc, il nous aide sur ces sujets de manière transversale, parce que je sais qu'en Occitanie, on a aussi une volonté en service civique qui parle beaucoup de féminisme dans sa région.
Des questions de genre en général, ouais. Et puis, en Pays de la Loire, ça va être plus l'environnement. Et donc chaque région a un peu sa thématique. Après, comme disait Enzo, voilà, on se prétend pas être des experts ou des expertes de ces questions-là. C'est simplement des questionnements qui ont émergé dans les mois et les années passées dans les associations du réseau. Et donc l'idée, c'est de pouvoir créer des temps où les assos peuvent réfléchir ensemble sur ces sujets-là. On évite de faire des ateliers descendants où on va juste transmettre une information, parce que c'est pas le but, mais c'est vraiment pouvoir réfléchir ensemble et faire émerger des nouvelles pratiques qui prennent un peu plus en compte ces enjeux-là au quotidien, quoi.
Et pour faire en sorte aussi que les assos, une fois qu'elles... D'ailleurs, quels sont vos interlocuteurs au sein des différentes assos qui font partie du réseau? Ce sont les bureaux, les conseils d'administration ou les bénévoles des assos dans leur ensemble? Comment vous vous rencontrez? Comment ça marche, en fait, quand vous faites des temps en commun?
Ça va beaucoup dépendre des assos, selon si elles sont plus ou moins grosses, plus ou moins structurées, si elles ont un ou plusieurs projets. Souvent c'est les assos qui viennent vers nous via Instagram, par mail, pour des questions, et puis on leur répond, et petit à petit elles s'intéressent au réseau, et puis elles se retrouvent à venir sur les temps de formation, puis à adhérer, et d'une année à l'autre ça se renouvelle. Y a pas vraiment de scénario type, en fait. Ça peut être sur des événements comme celui d'aujourd'hui organisé par AnimaFac, où on va rencontrer une asso qui est intéressée par ces thématiques là et qui va revenir vers nous une semaine plus tard pour échanger sur un sujet.
Donc c'est en fonction des besoins, des demandes.
Ouais.
Après, on a quand même une grosse partie aussi, nous, de notre côté. On a toujours cette volonté de, pas forcément de faire grossir le réseau, mais de rechercher des associations qui seraient intéressées par nos services, parce qu'on pense que la solidarité internationale, notamment, c'est quelque chose qui peut facilement être... Il peut facilement y avoir des dérives. Et faut bien se rendre compte que toutes les assos de solidarité internationale, c'est pas de l'humanitaire, c'est pas on part en vacances dans un autre pays et filmer des personnes en situation de pauvreté ou d'extrême pauvreté. Mais du coup, il y a quand même une certaine prospection, nous, chacun de nos côtés, pour essayer de dénicher ces associations et essayer de les questionner et les former.
Donc de mettre en place des bonnes pratiques et...
Exactement, oui.
Avec leur aide et avec toute leur motivation. Mm-hmm. Écoutez, merci à vous de nous avoir expliquer votre projet, vos activités. Thomas, peut-être que tu avais une dernière question, je ne sais pas.
Non, pour moi, c'était tout bon. Peut-être rappeler, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, de ce que j'ai compris. Est-ce que peut-être redonner les noms, une page Facebook ou Instagram, peut-être?
Ouais, on a notre Instagram qui est plutôt, qui est très actif, qui est engagé, déterminé, tout attaché, avec EES, à la fin de engagé et de déterminé. Et on a aussi un serveur Discord qui a vocation à grossir et à ramener des personnes qui sont intéressées pour échanger sur beaucoup de sujets, donc il faut pas hésiter à le rejoindre. J'ai pas le lien en tête du serveur et on peut pas transmettre de QR code à la radio encore, donc
c'est encore un peu difficile.
Voilà. Mais il est trouvable sur nos réseaux sociaux, du coup, en passant par Instagram on peut retrouver le Discord via le lien en description, je pense.
Ce sera à nos auditeurs et nos auditrices de faire après le chemin.
De faire montre de curiosité. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci d'avoir accueilli.
À très bientôt.
À bientôt.
Merci. Merci beaucoup. Thank you.
Focus à l'amphi dans un c'est l'amphi 10 je crois
10 ou 11 ouais 10, ça doit être ça
10 ou 11 de, vous nous trouverez facilement près du hall sud de l'université Stendhal pour l'événement Focus et on est avec Najima.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es ici pour représenter l'association ACTICI.
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu pourrais nous la présenter, s'il te plaît ?
Oui, en fait, ACTICI, c'est une association qui est née il y a 2 ans, en fait, pendant le Covid, et qui partait d'un constat de 5 membres fondatrices, en fait, qui ont fondé l'association, de se dire que ce serait bien de donner des clés, des outils aux jeunes pour pouvoir renforcer leur engagement citoyen et social, en fait. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir donner des outils et de renforcer, du coup, cet engagement des jeunes dans la société.
Et aujourd'hui, là, combien vous êtes de membres dans l'association ?
Alors, dans notre association, déjà, on est tous bénévoles et on est 15, 16.
D'accord, et est-ce que vous avez des axes sur lesquels vous voulez travailler justement pour aider les jeunes à s'engager et à comprendre quel peut être leur rôle de citoyen au sein de la société ?
Alors nous, on a plusieurs axes qui rentrent dans nos valeurs, en fait nos valeurs qui sont inspirées, connectées et impactées.
D'accord.
Du coup, on a un axe qui est plutôt éducation, qui va passer par un programme de mentoring en fait envers des jeunes issus de milieux à opportunités réduites. Et on va avoir un axe qui est plutôt ouvrir le champ des possibles avec un programme qui s'appelle Ambassacteur, avec des jeunes de 13 à 20 ans, où on va discuter de plusieurs thématiques en lien avec le CECI, donc l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et on va avoir un programme qui va être plutôt de la discussion du vivre ensemble. Donc ça va être des programmes où ce sera d'organiser des événements ouverts à tous et favoriser la mixité sociale, et d'autres qui vont être plus des discussions autour de thématiques et d'enjeux sociétaux.
Et vous travaillez avec des structures éducatives, des établissements culturels, quel genre de partenaires ?
Alors nous, pour l'instant, nos partenaires sont plutôt associatifs. Donc d'accord. On va avoir d'autres associations qui vont travailler avec nous. Et dans les institutions, on va être en contact. Nous, on est une association lyonnaise, donc on va être en contact avec la mairie et la métropole de Lyon.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des formations qui sont proposées au public que vous ciblez ?
Oui. En fait, comme la montée en compétences de nos membres sert l'objectif de renforcer l'engagement et le pouvoir d'agir des jeunes, on va proposer des formations, des ateliers, des workshops qui sont animés par les membres de l'association. Par exemple, moi, j'ai fait un atelier sur la proposition de valeur. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte dans la gestion de projet et dans le projet. Donc, c'est des ateliers qui vont être aussi en fonction de la demande des membres et des bénévoles de l'association. Qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir en plus ? Sur quel axe ils ont envie de renforcer leurs compétences.
Il y a aussi une visée à une solidarité internationale, il me semble.
Oui, parce que nous, on est une association assez jeune, parce qu'on a 2 ans, mais dans notre objectif, c'est de pouvoir aussi, en interne, développer des projets de solidarité internationale. La première étape qu'on s'est fixée pour le moment, c'est d'accompagner d'autres structures, d'autres associations qui montent des projets de solidarité internationale et du coup de les guider, de les conseiller sur qu'est-ce que c'est que la solidarité internationale, qu'est-ce que ça entraîne, les enjeux, enfin tout ce qui peut se passer derrière. Donc on a cet aspect-là qui est vraiment accompagnement et discussion avec d'autres structures sur des problématiques de solidarité internationale.
Tu as dit un peu plus tôt que vous tourniez ensemble vers la mairie ou même vers les pouvoirs publics. Du coup, d'un point de vue international, vous avez aussi des rapports avec d'autres pays, des pays peut-être européens, voisins ?
On a accompagné 2 associations qui avaient des projets. Alors, une association une association culturelle qui avait un projet dans les îles Comores et une autre qui avait un projet au Bénin. Donc du coup, là, il y a le travail de qui a sur place, est-ce que vous avez changé, est-ce que vous voulez que nous, on vous aide à contacter les personnes sur place. Et aussi, notre association, elle fait partie du réseau Engagé et Déterminé. Donc on a aussi ce soutien-là, si on se pose des questions, si on a besoin d'être formé sur certains sujets, qui n'est pas négligeable et qui connaît beaucoup d'acteurs en fait, et d'institutions, que ce soit nationales ou internationales.
Et par exemple, au Bénin, là, sur les actions que vous faites sur place, vous avez des interlocuteurs, vous avez des interlocuteurs publics, d'autres associations.
Oui, en fait, le projet qu'on a accompagné au Bénin, c'était un projet qui a été fait dans une ville qui était jumelée en fait à une autre ville au Bénin.
D'accord.
Donc il y avait toutes les institutions de la mairie des 2 côtés.
D'accord.
Et la mairie est en fait au niveau local, parce que du coup on a contacté d'autres associations, on est passé à la radio locale, etc. Donc il y a vraiment ce projet s'intègre bien dans le partage entre les 2 communes.
Ce but de créer du lien à l'international pour développer des actions de soutien aux populations locales. Et concrètement, qu'est-ce que vous essayez de développer sur le terrain là au Bénin notamment?
Alors là, c'est un projet qui est un peu particulier parce qu'il est tourné autour de la danse. Donc c'était vraiment d'utiliser la danse comme moyen de communication et comme moyen d'aller vers l'autre. Donc c'est de se servir de la danse comme prétexte pour discuter de thématiques. Et du coup, nous, on a eu une expertise qui était plutôt sur l'animation des échanges sur les sujets, sur les problématiques communes, sur comment chacun a sa vision de son futur, s'il a une vision, s'il n'a pas, etc. Donc ça a été beaucoup l'animation sur le terrain, et en amont ça a été former les personnes qui allaient partir au Bénin à la solidarité internationale, les pratiques, ce qui est important avant de faire le voyage. Et ça a été aussi l'animation de soirées qui sont à destination des jeunes, du coup plus locales. Là, c'était dans la ville qui s'appelle Rieux-la-Pape. Donc, c'était d'organiser des soirées pour les jeunes sur des thématiques qui les intéressent. Donc là, c'est aussi un côté animation de soirées avec des méthodologies d'éducation populaire, etc.
D'accord. Et du coup, vous êtes rendu compte que la danse, j'imagine, était un bon vecteur de rencontres, d'échanges, ça a dû bien fonctionner.
L'avantage, je peux dire, de la danse, c'est que t'es vite en proximité avec une personne. Et du coup, ça enlève tout de suite une barrière quand tu dois danser avec quelqu'un. Si tu ne peux pas t'approcher, c'est compliqué. Donc déjà, si on arrive à passer ce step-là, tout ce qui suit après est beaucoup plus simple, parce que c'est comme si on se connaissait déjà, même si on n'a pas échangé forcément ensemble, mais on a dansé ensemble, donc il y a un lien qui s'est créé entre nous, et du coup c'est plus facile après de discuter.
Bien sûr, et tout le monde peut s'exprimer par ce biais-là, donc c'est vrai que ça fait tomber beaucoup de barrières.
C'est ça.
Voilà. Thomas, est-ce que tu as une ou deux questions encore?
Non, mon cher Pierre, je trouvais que c'était... J'ai une belle mise en lumière de ce qui est fait chez Act ICI. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio
plaisir.
Campus Grenoble. Merci beaucoup.
Merci Nadima.
Merci de m'avoir accueilli.
Avec plaisir. Thank you.
de retour sur Campus Grenoble 90.8 et on écoutait un morceau de German Bringas, Caminatas, donc un morceau assez planant comme vous avez pu vous en rendre compte, qui fait bien voyager et c'est de l'ambiance posée, tranquille. Et on se retrouve avec une nouvelle association, n'est-ce pas Thomas? Je te laisse la présenter.
Absolument, nous
ainsi
sommes
que nos invités.
Bien sûr, nous sommes toujours dans le hall sud du bâtiment Stendhal à l'UGA, dans le cadre de l'événement Focus. Et nous sommes avec l'association Makeda Saba, avec sa présidente et la secrétaire générale, respectivement Godgift, sa présidente. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et Kaina, sa secrétaire générale. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Est-ce que, en première question, vous pouvez nous résumer ce que vous faites dans cette association?
Alors, l'association Makeda Saba, il faut savoir qu'elle a été créée en 2017 par une étudiante qui s'appelle Salamata Benz. L'objectif premier, c'est de mettre en avant les femmes africaines et afrodescendantes à travers des événements. Il y a les événements qui sont phares de l'association. Je parle de la JMCA, c'est la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. C'est un événement qui se déroule fin janvier. Généralement, cette année, on vient de le clôturer. On a mis en avant les femmes de sens, c'est notre thème pour cette JMCA. Donc, nous avons organisé des diffusions, une diffusion du film Les Figures de l'Ombre, un documentaire, une conférence qui devait avoir lieu, en tout cas qui était prévue, qui n'a malheureusement pas eu lieu, et un atelier codage qui a permis aux personnes qui sont venues d'avoir une première vision du codage. Et puis voilà. Il y a également la JIFA, et je vais laisser Kaina en parler.
Alors la JIFA, c'est la Journée internationale de la femme africaine. Elle a lieu en juillet. Et c'est une occasion pour l'association, et beaucoup d'autres associations d'ailleurs, de mettre en avant la femme africaine à travers plusieurs événements. Après, nous, ça représente un peu l'objet de notre association, puisqu'on veut vraiment mettre en valeur la femme afrodescendante au travers de toutes ces cultures. Donc, comme Godgift l'a dit, on organise plusieurs événements, comme la JMCA, sur énormément de thèmes. On a déjà eu la musique, on a fait Femmes de Science cette année, on a eu aussi certains événements sur, par exemple, la culture culinaire. On a eu aussi des événements sur l'identité noire, etc., où on essaye vraiment de mettre en avant les femmes afrodescendantes dans des secteurs, dans des contextes où on ne les voit pas généralement. Par exemple, on a eu le cas pour Femmes de Science où on n'a pas tant de chercheurs noirs qui sont connus alors qu'elles sont là et qu'elles travaillent énormément pour faire évoluer la biologie, l'astronomie, etc. Et donc, nous, c'est ce qu'on veut promouvoir à travers nos événements, comme la JMCA, comme la JIFA. Et voilà.
Comment vous décidez ces thèmes-là? Comment ça se passe dans l'association? Est-ce que c'est sous une impulsion, une idée ou quelque chose peut-être en lien aussi avec l'actualité?
Souvent, c'est des idées qui sont apportées par chacune des membres, ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles projettent pour l'association, puisqu'on, même si y a les présidentes, les secrétaires générales, etc., on essaye d'avoir un véritable dialogue avec tous les bénévoles de l'association pour qu'ils se sentent à leur place. Et donc, plusieurs événements sont à l'initiative des membres qu'on va essayer de monter alors toutes ensemble, comme par exemple le thème Femmes de Science qui a été proposé par une bénévole, puisque c'est un thème qui l'intéressait. Comme bien d'autres thèmes qu'on a abordés les années précédentes.
D'ailleurs, si je peux me permettre, pour le thème Femmes de Sens, on avait les membres en fait avaient beaucoup d'idées. Il y avait l'idée d'aborder la santé et celle d'aborder quelque chose de plus technique comme le codage. Et en se mettant d'accord sur le thème Femmes de Sens, on a pu intégrer à la fois le codage en organisant un atelier et à la fois la santé à travers à travers la conférence. Du coup, on essaie vraiment pour que tout le monde puisse dire son mot et
on essaye vraiment d'avoir un consensus
entre
nos membres, que chacun soit satisfait du travail qu'on produit et du coup voilà, pour que chacun se sente à sa place, parce que l'association se centre vraiment autour de la femme africaine et la plupart de nos, la femme afrodescendante même, et la plupart de nos membres le sont. Et donc, en fait, c'est leur propre culture, leurs propres identités qu'elles mettent en avant. Et c'est important de montrer ces identités-là à travers leur pluralité et les ambitions de chacune.
Vous intervenez lors de ces journées spécifiques. Est-ce que vous faites ça après vers une ouverture nationale, peut-être ? Avec d'autres associations qui ont ces mêmes buts ou ces mêmes idées-là de promouvoir cette culture ?
Après, dans le cadre de ces événements, on les organise très peu en partenariat.
D'accord.
Que ce soit la JMSA ou la JIFA, c'est déjà arrivé auparavant, mais on fait plutôt appel à des intervenants plutôt qu'à vraiment des co-organisatrices ou co-organisateurs. Mais on fait des événements un peu plus ponctuels en partenariat avec d'autres collectifs qui ont les mêmes ambitions que nous, comme par exemple le collectif Soche, avec lesquels on a un book club récurrent où on essaye de mettre en avant des autrices noires francophones, souvent, et pour partager un peu la passion de la lecture avec certains, mais aussi le fait de toujours mettre en avant les personnes qui nous ressemblent, puisque on se sent pas forcément représenté dans d'autres espaces.
Pour être chouette, t'as une idée pour la librairie des étudiants, je lance ça à quelqu'un qui est autour de cette table qui s'occupe de ça, mais ça pourrait être sympa, pourquoi pas. Tout hasard, je tiens le micro, mais non, c'est une belle idée de promouvoir toute cette culture qui effectivement est parfois sous-représentée, quoi. Ça qui manque de lumière.
Et il y a toute une littérature venue d'Afrique qui est souvent méconnue ou réduite à quelques noms iconique, mais justement ça vaudrait le coup d'aller voir un peu plus loin et aussi du côté effectivement féminin. Donc là, sur quelle thématique vous avez envie d'orienter vos prochaines actions? Est-ce que vous avez déjà des idées, des choses qui pourraient vous intéresser? C'est peut-être le moment d'un brainstorming
une bonne annonce
en direct.
Une bonne annonce radiophonique.
Voilà.
Pour revenir à la littérature, on avait fait un événement en septembre ou octobre, si je ne me trompe pas, avec Ernis, qui est une auteure qui a gagné le prix Voix d'Afrique 2022. Donc elle est venue nous présenter son premier roman. Elle a fait une lecture. Elle nous a expliqué sa vision des choses, une interprétation en fait de son livre. C'était super intéressant. Et pour les événements à venir, on aimerait faire un atelier cheveux au niveau qui met en avant du coup la manière d'apprécier, mais aussi de s'occuper de ses cheveux en partenariat avec des coiffeurs au sein d'une boutique lyonnaise. Où il y aurait aussi une distribution de goodies avec une diffusion d'un film qui permet aux personnes d'en savoir plus sur les cheveux afro, crépus, frisés. L'idée, c'est que ce soit un événement qui attire toutes sortes de personnes, étudiants, mamans, enfants, et d'avoir une nouvelle vision sur les cheveux afro.
Est-ce qu'on a des réseaux sociaux pour retrouver votre association ?
Oui, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Makeda Saba Asso, sur Facebook, Association Makeda Saba, et sur Twitter.
Super. Bon, on va rediriger donc nos auditeurs et nos auditrices vers les réseaux. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues
Merci à vous.
Merci à
vous.
Au micro
Merci.
Radio Campus.
Merci. Et c'était donc God Connection, Darling I Like It, sur Campus Grenoble 90.8. Nous sommes toujours à Stendhal dans le cadre de l'événement Focus en partenariat avec AnimaFac. Et on reçoit une nouvelle asso, n'est-ce pas Thomas?
Absolument mon cher Pierre, c'est l'association Enjeu. Et nous recevons au micro de Radio Campus Grenoble 90.8 Aline et Lucie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être à notre micro. Première question, assez piège, est-ce que vous pouvez présenter votre association Enjeu?
Oui, bien sûr. Du coup, nous, on est l'association de divertissement et de game design de Grenoble École de Management.
Quelles sont vos missions alors? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous, comment vous intervenez auprès du public?
Alors on fait beaucoup de choses différentes, on a plusieurs pôles créa sur des sujets différents. Alors on a un pôle qui fait des murder parties, on fait aussi des escape games, on fait des échecs, on fait de l'e-sport et des tournois e-sport notamment. Est-ce que tu peux compléter Aline ou...
Est-ce qu'on peut déjà rassurer les gens en disant que les murder parties, tout le monde est quand même vivant à la fin? Ouais, non, parce qu'on sait jamais si
c'est
les
avec
oreilles...
des acteurs, ça va.
Ça va alors, parce que si les oreilles tordues commencent à nous écouter. Pardon, je t'ai coupé Aline, tu peux reprendre. Dis-nous non, tout le, pour coup, le reste.
Oui, on fait aussi du serious game, donc ça va être créer des jeux sérieux pour les entreprises.
Vous intervenez aussi donc auprès des entreprises.
C'est ça.
Comment est-ce qu'elles vous sollicitent, ces entreprises?
Alors, ça dépend vraiment des entreprises. On peut faire donc des appels d'offres de nous-mêmes. Et sinon, on a beaucoup d'offres en fait, avec le département ou autre qui nous contactent justement pour qu'on les aide. On fait aussi pas mal d'événements à l'UGA. On a fait une murder party dernièrement, justement.
Qui s'est très bien passé.
Oui.
Du coup, vous organisez sur le département?
Oui, c'est ça.
C'est uniquement basé sur Grenoble ou vous intervenez aussi dans d'autres villes du département?
Ça peut arriver qu'on intervienne ailleurs, même en dehors du département. On a fait une murder party justement à la bibliothèque Paris-Saclay l'année dernière.
Ah quand même?
Oui.
Je suppose que le Cluedo géant était résolu par un dictionnaire.
Non, pas tout à fait.
C'est dommage. Waouh, c'est chouette. Donc du divertissement, comment vous construisez ces thématiques, même si ça revient, je suppose, les murder parties, les échecs, ouais. Tout ça, comment est-ce que vous... Quelle dynamique vous avez dans l'association?
C'est assez hiérarchisé. En gros, on a le petit bureau qui est composé de 4 personnes et qui gère un peu toute la direction de l'association et après qui délègue au respo de chaque pôle, du coup. Et c'est chaque pôle qui gère chaque créa particulière. Par exemple, le pôle murder party fait toutes les murder parties, le pôle escape game fait toutes les escape games. Et au sein de chaque pôle, il y a environ 5 personnes, je dirais, en moyenne. Et la créa, vu qu'on a nos cours à côté et tout, ça se fait à peu près sur un mois pour chaque événement. Mm-hmm. À peu près, ça peut être un peu moins ou un peu plus, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Et on passe d'abord par une phase de brainstorming. Après, on doit faire le playtest pour s'assurer que tout ce qu'on a mis en place fonctionne bien. On fait ça intra-asso, du coup, juste avec nous. Et après, on met ça en place là où on a prévu de le faire. Ça peut être très varié, comme l'a dit Aline juste avant.
Genre. Oui.
Soit à GEM, soit à côté, soit dans des lieux particuliers comme l'UGA.
Et vous êtes quand même basé à GEM de base.
Ouais. C'est là où est notre local, notre siège, on va dire.
C'est ça.
Il y a du monde là-bas en plus, à GEM. On pense à nos amis qui sont au GEM.
Un petit peu, ouais.
Et du coup, qu'est-ce qui pousse les entreprises à s'intéresser à ce que vous proposez? C'est pour entraîner de la cohésion d'équipe
Alors, c'est... ça peut être ça, oui. On peut proposer des activités un peu de team building justement pour les entreprises. Et on fait aussi pas mal de jeux, par exemple, qui sensibilisent. Nous, on a développé notamment un jeu sur les violences sexistes et sexuelles, donc qui apprend en fait, qui sensibilise les joueurs et qui leur apprend en fait comment agir, comment savoir un peu quoi faire quand on a un ami qui est victime de violences sexistes et sexuelles. Donc c'est un peu ce côté-là. Ça peut être soit vraiment un côté team building pour s'amuser, pour souder l'équipe, soit pour sensibiliser. Ou encore, ça peut être gamifier une formation, c'est-à-dire créer un jeu autour d'une formation pour justement que ce soit plus ludique. Et oui, rendre la formation plus ludique.
Et que l'apprentissage, du coup, je suppose, soit plus efficace et plus agréable.
Exactement.
Voilà. Est-ce qu'il arrive parfois que les entreprises viennent vous voir en vous demandant directement de traiter un sujet précis? Ou est-ce que c'est vous qui apportez, après concertation, des sujets?
Souvent, en fait, elles viennent nous voir avec un but, justement, avec soit une formation sur laquelle on doit se baser pour faire un jeu. Après, ça va être à nous aussi de se former avec eux pour apprendre à connaître bien le sujet et pour être sûr de faire le jeu qui soit bien, qui corresponde bien au sujet.
On va revenir, vous m'avez parlé des échecs tout à l'heure. Oui. Vous faites également des tournois grenoblois, il me semble.
Exactement.
Comment ça s'organise? Comment on organise un tel événement?
Alors, ça va être en amont. On fait beaucoup de tournois déjà à l'intérieur de l'école, puisqu'on a un club d'échecs, donc pour apprendre à jouer à tout le monde. Donc il y a des petits tournois justement internes à l'école. Et on organise aussi chaque année un gros tournoi ouvert à tous les grenoblois, peu importe l'âge. et, Et justement, pour s'inscrire, il suffit juste de nous suivre sur nos réseaux et on vous explique en fait tout le processus d'inscription. Et on fait ça en partenariat avec l'échiquier grenoblois, justement, qui nous aide à organiser cet événement.
On peut parler à quelques instants du game design. Est-ce que vous pouvez nous développer cette thématique? En quoi est-ce qu'elle consiste? Vous visez qui avec cette thématique?
Le game design, c'est littéralement la création de jeux. Donc, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, ça passe d'abord par une phase de brainstorming où on définit la thématique dont on veut parler, ce qu'on veut faire passer. Ça dépend beaucoup du contrat aussi. Mmh. Enfin, si on fait ça juste pour nous, pour les étudiants de GEM, ou si on a un contrat avec une entreprise qui a des demandes en particulier. Et une fois qu'on a fait ça, après, ça dépend un peu du projet, parce que c'est jamais pareil si c'est un serious game, si c'est une MP ou quoi. Parce que, par exemple, dans le cadre d'une MP, on a toujours des acteurs à gérer aussi.
C'est une MP.
Une murder party.
c'est pour les auditeurs, il n'y a pas de problème. Pour les murder party, oui.
Oui, il y a toujours des facteurs différents à gérer, que ce soit les acteurs, les lieux, les particularités du contrat. Et je sais plus ce que je disais avant, mais
le brainstorming.
Exactement, merci. Donc on fait le brainstorming où on réfléchit à ces thématiques-là. Après, on définit une liste précise de l'ordre dans lequel va se dérouler l'événement, avec les différentes étapes précises, et on rédige ça et on l'envoie à toutes les personnes qui seront concernées. Ça s'appelle le guide staffer. Comme ça, tout le monde sait ce qu'il faut faire et le fait au mieux possible le jour J, on va dire.
Oui.
Et une fois qu'on fait ça, c'est là qu'on fait le fameux playtest où des personnes qui sont dans l'assaut viennent tester le jeu pour voir s'il se déroule correctement. Et après, l'événement a lieu et normalement tout se passe correctement parce que tout a été fait en amont pour que ça se passe correctement.
C'est
ça.
On devrait faire ça à Radio Campus.
Vous avez l'air très organisé. Hein.
Il faut bien.
On sent que ça roule. Hein.
J'avais une question. Ça se développe beaucoup, non, la gamification en entreprise?
Oui. De plus en plus, oui.
D'accord. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à travers ça, en fait? Remarquez, j'avais un peu déjà exploré la chose dans une question avant, mais c'est d'apporter un peu plus de légèreté dans ce monde-là.
Oui, c'est vraiment un sujet en fait, qui se développe ces dernières années dans les entreprises, que ce soit en fait, gamifier tous les team building et tout ça pour la cohésion dans l'équipe, mais aussi, comme je l'ai dit, pour les formations. On voit beaucoup de formations qui sont gamifiées justement parce que c'est plus ludique, parce que c'est plus facile d'apprendre comme ça. Et on voit vraiment que ça se développe dans des gros groupes et tout ça. Nous, par exemple, on va travailler avec L'Oréal bientôt pour organiser justement une sorte de jeu de piste en fait, pour découvrir l'entreprise autrement. Et ça permet aussi de toucher plus un jeune public, en fait, plus un public peut-être plus étudiant. Et c'est pour ça, je pense, que les entreprises cherchent à se tourner de plus en plus vers la gamification.
Voilà, pour... aussi dans une optique peut-être de recrutement par la suite, ou en tout cas d'attirer, comme tu le disais, des jeunes vers leurs équipes.
C'est ça.
Une question, Thomas, peut-être?
Du coup, je suppose que ça rentre aussi en lien avec le parcours des étudiants qui sont avec vous. Est-ce que c'est une thématique qui est abordée par un cours, ou est-ce que c'est vraiment du bénévolat à côté? Comment est-ce que ça se concrétise?
Alors nous, c'est totalement du bénévolat, c'est-à-dire qu'on fait ça bénévolement, mais on est formé sur, par exemple, pour faire des serious games, on a des formations pour être sûr vraiment de savoir ce qu'on fait. Et ça, c'est des formations qui sont financées par l'association, justement, pour avoir des membres qui savent ce qu'ils font.
Voilà, écoutez, est-ce qu'on a des réseaux sociaux pour vous retrouver?
Oui, alors sur Instagram, ce sera enjeu-du-bas-gem. Et on a aussi le compte de notre compétition, de notre tournoi e-sport inter-école, qui est donc ouvert à toutes les écoles grenobloises, mais pas que, qui aura lieu d'ailleurs le 25 et le 26 mars. Et du coup, ce sera le compte Gem Digital Games sur Instagram.
Et donc pour cette compétition-là, est-ce que les inscriptions sont encore ouvertes?
Oui, les inscriptions viennent juste d'ouvrir.
Ah, c'est merveilleux. Vous allez avoir des auditeurs par milliers qui vont s'inscrire.
On l'espère bien.
C'est parfait, très bon timing alors.
Une occasion à ne pas manquer.
Voilà, un bon rendez-vous pour l'actu grenobloise. Merci à vous deux d'être venus au micro de Radio Campus Grenoble.
Avec plaisir.
Merci.
J'ai de l'air.
Retour à l'antenne de campusgrenoble.org avec Thomas et Youssef de l'association Zonard. On est toujours au Focus en partenariat avec AnimaFac à l'Université Stendhal. Et voilà, donc bienvenue Youssef.
Bonjour Youssef.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu peux nous dire des objectifs de ton association et de son contexte aussi dans lequel elle œuvre.
Alors je suis dans l'association Zonard, comme tu l'as dit. Et nous, on est un bureau des arts. Et donc au sein de l'école, donc Grenoble École de Management, on va gérer et organiser toute la vie artistique et culturelle. Et donc l'idée, ça va être de promouvoir tout ça auprès des étudiants, du coup, et de se développer sur la région grenobloise pour promouvoir davantage l'art et la culture auprès des étudiants.
Et donc, tu me disais, je crois, vous avez 8 pôles thématiques, c'est ça? Comment s'est organisé un peu votre activité?
Exactement, on a donc organisé l'association autour de 8 pôles artistiques. On a un pôle qui va gérer les arts graphiques et visuels, un pôle qui va être plutôt sur du théâtre classique d'improvisation, un pôle qui va gérer tout ce qui est mode luxe, un autre qui va préparer en fait une comédie musicale pour la fin de l'année, qui va avoir lieu le 3 avril, c'est ça. Ensuite, on a un pôle cinéma, on a un pôle musique généraliste, on a aussi du coup un label de musique électronique et on a une radio.
Oh, on a des concurrents. Petite question, tu nous parles de différents pôles culturels, comment est-ce que vous recrutez les membres de ces pôles? Est-ce que c'est des élèves inscrits au GEM ou est-ce que ça vient d'ailleurs?
Ce sont des élèves qui sont au sein de l'école ou qui sont passés par l'école généralement. On peut avoir aussi des fois des élèves qui ont terminé leur scolarité, qui sont toujours au sein de l'association et qui aident activement à l'organisation de certains projets.
Je suppose que sur ces 8 pôles artistiques, il y a des représentations, des expositions peut-être?
Alors oui, exactement. On a notamment là, sur la fin du mois de février, Donc du 27 février au 5 mars, on organise un festival de théâtre d'improvisation avec différentes écoles d'autres villes et différentes troupes aussi à Grenoble, notamment les Improx, du coup, qui est la troupe du coup, de l'INP. Et après, on va avoir d'autres projets, donc des concerts, une comédie musicale dont je parlais, et parfois des sorties cinéma qui sont organisées, des expositions. On va avoir une grande expo qui va être organisée au courant de l'année, d'ici avril.
Ça sera exposé où ?
On est actuellement en recherche de salles.
D'accord. D'ailleurs, peut-être que ceux qui nous écoutent ont peut-être déjà vu les membres chanteurs de ton asso.
Oui, effectivement, c'est possible. On a eu notamment une prestation musicale qui a été organisée par la comédie musicale et par le pôle comédie musicale et par le pôle du coup de musique généraliste lors du marché de Noël.
Place et Victor Hugo.
Exactement.
Et le pôle musique électronique est représenté par une association particulière à l'intérieur de Zonar ou...
Exactement, en fait, chacun de nos pôles a un nom du coup et est représenté à l'extérieur avec à travers ce nom. Et pour le label de musique électronique, c'est Nymphony Records, du coup.
Oui, j'ai vu passer, je crois qu'ils ont organisé plusieurs soirées à l'Empérage.
Oui, ils organisent des soirées à l'Empérage. Ils ont organisé une belle électrique le 26 novembre. Et après, ils organisent plusieurs soirées au Dracart.
Et à l'intérieur de ce collectif, il y a aussi des DJ, des producteurs aussi, il me semble. Donc,
exactement.
C'est un pôle assez actif.
Oui, c'est un pôle assez actif à l'extérieur. C'est un des pôles les plus actifs à l'extérieur au niveau de l'association. Ils vont avoir du coup une direction artistique et ils vont signer du coup des artistes. Il y a notamment du coup une soirée qui est organisée à la fin du mois du coup où ils vont mettre en avant les artistes qu'ils ont signés. Ça va avoir lieu au Dracart du coup, et ils ont aussi au sein de l'association des membres qui mixent aussi du coup, et voilà.
Et je crois savoir, mais excuse-moi Thomas.
Oh, je t'en prie, vas-y.
Je crois savoir, mais je suis pas sûr qu'il y a aussi des antennes de ce pôle de Zonar, donc sur la musique électronique, à Bordeaux ou je sais pas, je me trompe peut-être de ville, mais dans d'autres écoles de commerce en France. Est-ce que tu serais au courant de ça ?
Alors, il me semble que non. Il y a eu un moment justement où le pôle était extrêmement développé, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes. D'accord. Mais depuis le Covid, du coup, l'association étant une association artistique a pris un coup du coup. Ouais. Mais on tend à se développer davantage et on essaie du coup de redynamiser toute l'association.
Bien sûr, bien sûr.
Ou c'est à combien de prestations par an ?
Alors par an, on va tourner autour, on compte pas les prestations, on compte les événements qu'on organise en interne. On va être autour de 120 événements à l'année.
C'est énorme.
C'est énorme.
Et donc vous êtes en relation avec pas mal de lieux culturels de l'agglomération, j'imagine. C'est à l'intérieur de chaque pôle que vos étudiants s'occupent de contacter les salles pour organiser l'accueil, c'est donc il y a une relative autonomie. Comment ça fonctionne ? Vous donnez des conseils comme ça aussi de manière transversale ?
Oui, ça fonctionne comme ça justement. Chaque pôle va être un peu indépendant, du coup va avoir son autonomie. Et derrière, on a du coup ça c'est les 8 pôles artistiques. Et derrière, on va avoir un 9e pôle qui est le pôle bureau et qui va un peu chapeauter tout ça et conseiller et organiser tout ça. Avec des responsables communication, des responsables partenariat qui vont un peu essayer de lisser tout ça pour que personne n'empiète sur personne au niveau de la recherche de partenariat ou autre.
Pour harmoniser aussi le calendrier des événements. Ouais.
C'est ça, exactement.
D'accord. Et là, est-ce que justement, à part donc la comédie musicale et une exposition à venir, tu aurais... d'autres choses à annoncer pour certains pôles de l'association ?
Comme une bande-annonce radiophonique.
Alors, donc, j'en parlais, on a un festival de théâtre d'improvisation qui arrive du coup du 27 février au 5 mars. On va avoir aussi une soirée au Dracart à la fin du mois, qui s'appelle la Winter du coup, où ça va être les artistes du coup du label qui vont jouer, ceux qui sont signés au sein du label. Et ensuite, on va avoir différents événements comme la comédie musicale qui arrive en avril, le Jam Fest qui va être un festival de musique qui arrive aussi en avril. On va aussi avoir une pièce de théâtre qui va être jouée et d'autres événements qui arrivent un peu tout le long de l'année. Mais je pense que le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de nous suivre sur Instagram, peut-être.
C'est ce que j'allais te demander, voilà.
Exactement.
Les réseaux sociaux, alors.
Alors, les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Instagram, du coup, sur la Zonar J'aime, sur Instagram, et donc sur notre site internet aussi, qui actuellement est en cours d'actualisation.
De refonte.
Voilà, exactement.
Super. Bah voilà, encore un programme culturel à rajouter. Pour
agrémenter les sorties grenobloises, c'est
voilà,
parfait.
Ça nous changera.
Merci à toi, Youssef.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous. Bellow, who will believe we got par? It's a sign of the times, like a cliche written non-stop. Full metal jackets get sprung, tanks are boiling, a bag the gunner. Stop, there's a drop off. Aren't the air and Vladimir's guys top off? This guy's top off quick, reach for your bits. Shit, he's so fit. Big banger, number 10 can't give me that Bruce Banner. I got crisis stamina, full marathon, four poop breaks. I can feel the ship. Your crisis race, spray out my back, because in England, nobody can hear you scream, you're just fuck lads. This is UK Grim, keep that desk here, Tiger, put it in the bin. This is UK Grim. This is UK Grim, keep that desk here, Tiger, put it in the bin. This is UK Grim. An hypocritical fate. There's no top five album when you're off the grid. Fuck all that, not here to please you, mate. Liz Truss, conformity. The smooth streets in the business quarter, where the white Range Rovers haunt. They sound lovely, white shirts and lunch bellies. Threesomes, wealth measles, penetrate the cornflakes. I want it all, like a crack forest gatto. I do drugs in my head, so I can still go to bed, as I pan the slabs of this dream into eggs. This is UK Grim, keep that desk here, Tiger, put it in the bin. This is UK Grim. This is UK Grim, keep that desk here, Tiger, put it in the bin. This is UK Grim.
Fucking big!